assistant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Fanny Granier. Alors bonjour Fanny.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre profession ?
Oui, tout à fait. Alors je fais du conseil en gestion d'entreprise.
Conseil en gestion d'entreprise, c'est tout à fait sérieux. Et alors donc Fanny, vous êtes d'origine catholique, mais vous avez abandonné cette religion, ou du moins vous vous en êtes éloignée il y a une dizaine d'années environ. C'est bien ça ?
C'est ça, on va dire, quand mes enfants ont fini leur catéchisme.
D'accord. Et alors, vous pouvez nous dire pourquoi ? Est-ce que c'est la notion de péché qui vous a rebuté, ou est-ce que c'est d'autres thèmes ?
Alors, bon, tout d'abord, il y a le dogmatisme de la religion catholique qui me gêne, avec une obligation de quoi ? L'obligation de recevoir la parole sans vraiment pouvoir la discuter. Et puis, avec le chemin que j'ai fait depuis une dizaine d'années, la traduction, en effet, du mot « péché » me choque particulièrement, et bon, on en reparlera, j'imagine. Voilà, c'est on est dans cette culpabilité qui ne résonne pas en moi.
C'est vraiment ça, c'est la notion de péché, de culpabilité, joint au dogmatisme. C'est surtout ces éléments-là.
Oui, mais c'est aussi, vous savez, je ne sais pas, il y a Alice de Saint-André qui a écrit En avant-route sur son chemin de Compostelle. Elle disait qu'elle se sentait plus à l'aise chez les athées de parler de Dieu que chez les croyants. Ben moi, c'est un petit peu ça, parce que j'ai une vision peut-être un peu parfois différente de beaucoup de catholiques, en tout cas.
D'accord. Oui, mais ça, on l'entend souvent. C'est plus facile, effectivement, de parler avec des gens qui n'ont pas de dogmatisme, enfin, ou qui sont supposés ne pas en avoir, par rapport à la religion, par rapport à Dieu, que des gens qui sont pétris dans leur vérité. Donc, le dogmatisme. Et alors, donc, vous avez commencé une recherche spirituelle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce comment vous avez, d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à chercher une recherche spirituelle ? Enfin, chercher une recherche, c'est pas très bon, mais enfin, bon, on a compris. Et puis, comment vous avez trouvé ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ?
Alors, ça, on ne peut peut-être pas recommencer par rapport à la genèse de mon histoire, mais c'est vrai que je m'étais éloignée de la religion à l'âge de 11 ans, à la mort de mon père. Et mon mari, qui était mon ami à l'époque, voulait absolument qu'on se marie à l'église, parce que la tradition faisait que, enfin, il était vraiment, c'est un fils de paysan, donc la tradition est importante pour lui. Bon, par amour, j'ai dit d'accord, mais j'étais pas trop prête. Le prêtre qui nous a préparé m'a dit que j'étais beaucoup plus croyante que je le pensais. Alors, bon, j'étais vraiment dans ce refus. Il y a eu les enfants. Ouais, je me suis mariée à l'église et là, j'ai fait quand même cette promesse de dire, ben, il faut avoir. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'église où je me suis dit, il y a quand même. Bon, quelque chose, mais je voulais pas mettre le nom dessus, qui voilà, la grâce qui m'est tombée un petit peu dessus, mais j'étais quand même encore dans le refus. Et donc, je me suis dit, très cartésienne, bon, voilà, on m'a offert la possibilité de me marier à l'église, je vais essayer d'avoir la parole et l'acte qui va être en résonance avec ce qu'on m'a donné. Donc, j'ai été d'accord pour baptiser les enfants, faire leur catéchisme, et j'ai rencontré un prêtre que j'ai beaucoup, beaucoup, avec qui on a vraiment sympathisé, très ouvert, un ancien avocat qu'on voyait régulièrement, qui est décédé il y a 2 ans. Et il y avait quelque chose, j'ai enseigné le catéchisme aux petits en première année. Alors ils adoraient parce que moi ça passait par le jeu, ça passait par regarder dans le jardin les fleurs, respirer, méditer. Il y a vraiment beaucoup de choses un peu différentes de ce qu'on apprend au catéchisme habituellement. Voilà.
Oui, on est loin du dogmatisme là.
Voilà. Je suis pas capable de faire du dogmatisme, même si dans ma profession c'est très.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Et j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui me manquait. C'est-à-dire que j'étais attirée de plus en plus par la foi, mais pas par cette religion. À chaque fois, je butais sur des mots, je butais sur des textes ou des interprétations de textes qui ne faisaient pas écho en moi. Et j'ai une amie qui m'a prêté un livre, et là, voilà. J'ai sauté au plafond en disant « Enfin, je comprends !» Et là, ça a pu me permettre d'ouvrir
Et alors, ce livre, vous pouvez nous en parler, vous pouvez nous en parler, donc?
Alors, ce livre, c'est ce qui fait tout mon chemin depuis. C'est en fait, l'auteur, c'est Annick de Souzenel. Certains de vos auditeurs connaîtront peut-être, donc qui est orthodoxe, quoi, qui était chrétienne, qui était catholique, qui est devenue orthodoxe, qui est décédée l'année dernière à 102 ans, et qui a revisité la Bible en étudiant les lettres hébraïques, et qui est reparti du texte et qui a découpé les mots de façon différente, parce qu'en hébreu c'est un peu particulier, il n'y a pas de césure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre les différentes lettres, entre les différentes lettres, et donc on a décidé de les séparer d'une certaine façon, mais on peut les séparer autrement. Et elle a retraduit cette Bible, et en tout cas pour moi, hein, chacun ça, pour moi ça a vraiment fait sens. Et là, j'ai pu enfin remplir cette espèce de vide que j'avais, ou d'insatisfaction permanente que j'avais.
Et alors, c'était, y avait une grande différence avec la traduction d'une Bible catholique, ou alors c'était plutôt au niveau des thèmes, enfin, qu'est-ce qui a fait ce déclic?
Oui, il y avait une grande traduction.
Une grande différence de traduction.
Une grande différence de traduction. En effet. Alors, je vais donner le premier exemple, mais je sais que dans la tradition protestante, par exemple, Lita Basset, j'ai vu qu'elle traduisait aussi différemment la Bible. Par exemple, on parle de la côte d'Adam, que Ève a été faite de la côte d'Adam, alors que c'est l'autre côté d'Adam.
Oui. Oui, il y a aussi, comment elle s'appelle, la rabbin juive, là, que, Delphine Horviller.
Delphine Horviller ou Pauline Bebe.
Oui. Oui, 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 oui.
Pareil.
Oui, oui.
Voilà, c'est vraiment des traductions comme ça. On a aussi le péché, qui n'est pas traduit par péché, hein, qui est traduit par serrata en hébreu, ça veut dire rater sa cible, rater la cible.
Hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, donc vous avez ce livre, et puis vous avez à côté toute une formation. Vous avez des cours. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette formation? Qu'est-ce que ça vous apporte, et puis comment ça se passe?
Alors, on chemine donc ce livre qui s'appelle La symbolique du corps humain, le premier livre qu'a écrit Annick de Souzel, m'a fait continuer à étudier ces livres. Donc, j'ai lu tous ces livres et je les ai étudiés toute seule. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si ça se trouve, je me trompe, je suis toute seule, je vais presque plus à l'église parce que vraiment ça me va pas. Donc, j'ai commencé à chercher un petit peu et j'ai vu que Annick de Souzenel avait créé une association qui s'appelle Ariga et également un institut, l'Institut anthropologique spirituel, dans lequel il y a une formation qui dure 4 ans, 7 fois par an. Donc, c'est vraiment un engagement et qui se fait tous les 3 ans, 3-4 ans. Suivant, donc il n'y en a pas eu énormément. Je me suis inscrite à la promotion numéro 5. Donc voilà, 5e promotion. La 6e, où je suis en 3e année. La 6e ouvre en 2025. Donc il n'y en a pas tous les ans. Et moi, vraiment, je ne savais pas qu'il n'y en avait pas tous les ans. D'ailleurs. Je me suis dit, bon, ben, ce sera parfait, mon dernier fils sera parti, mon mari travaille sur Paris, il sera toujours sur Paris, les 4 ans, tout ira bien, allez, je m'inscris. Et j'ai eu la chance que ce soit l'année où la promotion s'est ouverte, quoi. Il y avait une promotion qui s'ouvrait.
Et alors, qu'est-ce que vous avez, vous étudiez donc toutes les religions, en gros.
Donc, voilà.
Est-ce que vous pouvez me dire, assez brièvement, parce qu'on va faire un petit tour rapide. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans les religions, par exemple? On va parler du christianisme tout de suite, mais on va parler de l'islam, du judaïsme, des religions amérindiennes, pardon, des religions orientales. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé de particulier que vous ne connaissiez pas auparavant?
Alors, déjà, je ne connaissais pas. Je connais. Donc, nous, on ne parle pas de religion, on parle de tradition, puisqu'on essaye de remonter avant les dogmes. On essaye vraiment d'aller au cœur de chaque tradition. J'ai compris pourquoi il ne fallait pas faire de syncrétisme, c'est-à-dire papillonner d'une tradition à l'autre. Alors, nous, on les étudie en profondeur, mais on essaye d'étudier toujours avec le même thème, c'est-à-dire le 1, l'unité. Donc, on essaye de voir dans chaque tradition quelle est la facette de cette unité, comment ils le regardent, quel est le miroir. Et donc, on essaye de prendre un rayon, d'aller au moyeu, mais avec des maîtres qui sont quand même assez, qui ont des certains niveaux
de formation.
Et vraiment, que ça m'a apporté, hein, c'est ce principe d'unité de l'extérieur personnel, entre l'extérieur et l'intérieur, entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ça a été un bouleversement. Hein, quand j'ai commencé cette formation, la première année, j'avais l'impression de tout partait en éclats. Et je me disais, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais comment je le vis dans ma vie personnelle, professionnelle? Et au fur et à mesure des sessions et des années, j'ai trouvé une unité qui me remplit vraiment et qui m'équilibre, puisque c'est, que ce soit de l'extérieur comme de l'intérieur, c'est toujours du 1, et que ce soit le 1 égo va vers le multiple.
Et c'est-à-dire, ça a changé le regard que vous portiez sur les autres, sur ceux qui ont des traditions, justement, comme dans l'islam, le judaïsme.
Alors, déjà, ça m'a fait connaître ces religions, oui, ces traditions que je ne connaissais pas. Ça m'a fait également connaître la profondeur des textes et donc le côté extraordinaire des textes, mais ça me fait voir quand même l'autre côté, la facette, c'est-à-dire la façon dont on l'utilise dans l'islam, par exemple. Hein,
bien sûr.
Voilà, hein, comment on utilise, comment on impose la place de la femme. C'est évident que ça me choque toujours autant dans l'extérieur, sachant que dans les textes et la profondeur des textes, certains connaissent Rumi pour l'islam, le soufisme. Bien sûr, on étudie le soufisme, c'est la branche mystique de oui, l'islam. La liberté de la femme, c'est extraordinaire. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on ressent aujourd'hui Bon, mais c'est pareil pour le christianisme, c'est pareil pour toutes les traditions, l'hindouisme. Ce qui est intéressant, c'est de voir la beauté de cette tradition.
Oui, et alors les religions amérindiennes, par exemple, les religions orientales, tout ça, c'est quand même très éloigné de nos traditions occidentales, de nos façons de. Ça vous a beaucoup apporté aussi sur le plan compréhension du monde, histoire.
Alors, en effet, intellectuellement, ça apporte énormément. C'est vrai au niveau compréhension. Mais ce qui apporte énormément, c'est de voir que dans toutes les traditions, on dit la même chose. C'est impressionnant. Que ce soit des traditions amérindiennes, alors on a vu les Lakota, par exemple, mais cette tradition, elle est vraiment basée, et les traditions latino-américaines, elles sont vraiment basées sur sur la nature, sur le lien avec la nature. Mais dans les traditions de l'islam, par exemple, les liens avec la nature sont très importants également. Voilà, ça nous permet en miroir d'approcher bon, les traditions du livre et notre tradition de façon encore beaucoup plus ouverte et de se rendre compte que dans notre tradition aussi, on trouve ces messages. Voilà, moi, je trouve ça
C'est
merveilleux.
amusant parce que je suis en train de préparer pour une autre série d'interviews. Je suis en train de préparer je fais des recherches sur la scène, la Sainte Seine, l'Eucharistie, comme on dit chez les catholiques. Et on m'a dit que, on en reparlera donc dans une émission prochaine, que faites ceci en mémoire de moi, en fait, ça vient de beaucoup plus loin. Et donc, ça rejoint tout ce que vous dites sur, on trouve finalement un peu toujours la même chose. Et même dans les religions orientales qui paraissent, très différentes.
Exactement, dans l'hindouisme, par exemple, l'Eucharistie, je connais comme ça, l'Eucharistie, c'est le sacrifice. Et le sacrifice, c'est toujours quelque chose, c'est rendre le sacré. Hein, le sacrifice, c'est pas se sacrifier pour quelque chose dont on n'a pas envie de faire, qu'on n'a pas envie de faire. Le sacrifice est toujours lié à la nourriture, toujours, parce que on ingurgite quelque chose et on doit faire ce travail d'assimilation, de digestion de ce don ou de cette offrande. Voilà, ça par exemple, oui, en effet, c'est relié.
D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale. Vous nous avez choisi Carmina Burana de Karl Orff. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur les raisons de votre choix, pourquoi vous avez choisi ce morceau?
Alors, je n'écoute pas beaucoup de musique. J'ai besoin de beaucoup de silence dans mon travail. Je parle avec mes enfants, c'est très bruyant. J'ai besoin de silence. Et donc, quand je suis chez moi, je suis beaucoup en silence. Mais cette musique, je trouve, moi en tout cas, alors je sais qu'il y a des controverses sur cette musique, mais moi, elle m'amène déjà le nom que je m'invente, parce que je m'invente des mots avec ce que j'entends, Carmina, chemin, cheminée. Et pour moi, ça me fait penser, puisque c'est des musiques qui sont reprises de textes latins du Moyen Âge, ça me fait penser à ces pèlerins qui partaient à Saint-Jacques-de-Compostelle ou qui partaient voilà, aux pèlerins qui cheminent. Et je me sens vraiment un pèlerin intérieur à cheminer vers l'intérieur. Et cette musique, elle me fait penser à ça.
Eh bien, merci beaucoup. Nous allons écouter cette musique, donc Carmina Burana de Karl Orff.
She's out to get her. She's free.
Fanny, maintenant, on reprend sur l'étude comparée, enfin, des religions ou des traditions. Donc, on va parler maintenant un petit peu du christianisme et des valeurs du christianisme. Vous avez parlé donc du catholicisme dans le sens où ça ne vous avait pas apporté de solution. Donc, si on prend ce qui reste, il reste l'orthodoxie, donc le catholicisme oriental, ou le protestantisme. Alors d'abord, sur l'orthodoxie, qu'est-ce que vous nous avez dit donc que cette personne, Annick de Souzenel, était passée à l'orthodoxie. Qu'est-ce qui vous attire dans l'orthodoxie? Qu'est-ce qui est plus sympathique, si je peux dire, que le catholicisme? Qu'est-ce qui vous touche plus?
Alors, je pense qu'il faut faire toujours pareil. Dans l'orthodoxie, il peut y avoir des dogmes très gênants, voilà. Mais il y a aussi une liberté, comme il n'y a pas de pape, il y a une liberté d'enseigner ou de divulguer la parole en fonction des personnes. Alors, j'ai la chance d'avoir près de chez moi, à 3 quarts d'heure, un centre orthodoxe où il y a beaucoup de stages, ils se font beaucoup de choses, et j'y suis allée plusieurs fois avec le père Philippe Dautet. On va connaître Monseigneur Martin, qui est plus de votre côté. Ce sont des prêtres
Mon côté
orthodoxes.
géographique, je
Oui,
suppose.
pardon,
D'accord.
de votre côté géographique, donc du côté de Montpellier, je sais pas, encore un peu plus à l'est, dans
Oui.
le Var, je crois. Et oui, c'est ça, c'est à Saint-Michel-du-Var, je crois. Ce sont des paroles très, comment dire, disons qu'ils reprennent énormément les pères du désert. Et les pères du désert sont les premiers chrétiens du 4e siècle, quand Constantin a décidé de faire la religion chrétienne, d'en faire une
Une
religion d'État.
religion des.
Voilà. Et ils se sont dit, oups, qui dit religion d'État dit utilisation de la religion pour le pouvoir, cette utilisation va changer le texte. Et donc, ils sont partis dans le désert égyptien. Et il y avait vraiment des choses très profondes, hein, de recherche. Alors, c'est eux qui ont inventé, en utilisant le soufisme, qui ont inventé les psychanalyses, l'analyse de la psyché, où en permanence, on travaillait sur sa psyché pour justement se libérer et permettre d'accéder au divin. Et ça, en tout cas, les prêtres orthodoxes que je connais apportent ça, apportent cette dimension. Voilà.
Alors, c'est le désert, ça résonne en moi parce que c'est vrai que le désert, que ce soit le désert égyptien ou le désert, le Sahara, enfin du côté plus ouest, ou la Jordanie, enfin bon, tous les déserts, c'est vrai que c'est une propension à, on a une propension à ressentir le mystique. Et puis, je pense évidemment à Théodore Monod, qui était protestant. Et qui était ouvert à tous les courants mystiques ou à l'islam, enfin qui c'est vrai que le désert, il y a une possibilité de se ressourcer. Vous parliez de silence tout à l'heure. Dans le désert, on entend vraiment vraiment le silence. Et donc l'orthodoxie, oui, vous le reliez à ces pères du désert et donc la liberté qu'engendre le désert finalement.
Oui, alors attention, hein, je ne suis pas orthodoxe, Je connais très peu la tradition orthodoxe, donc c'est uniquement ma vision. Il ne faut surtout pas en faire un dogme.
Non, mais on n'est pas ici pour faire des dogmes. On est ici pour justement étudier des parcours et donc surtout pas faire des dogmes. Donc, il n'y a pas de problème, on est bien d'accord. Alors maintenant, ben, on va en venir quand même au protestantisme parce que ici, donc, vous êtes dans une émission qui s'appelle « Un protestant peut en cacher un autre ». On a bien compris que vous n'étiez pas protestante, mais
oui,
on va voir, on va voir quels sont vos rapports avec cette religion, si vous en avez, en dehors d'abord de tout point de doctrine, avez-vous des relations avec le protestantisme?
Alors, oui, j'ai deux relations particulières. Tout d'abord, ma grand-mère paternelle était protestante. Et donc, toute la branche de ma grand-mère paternelle était protestante. Alors, ça va faire bondir certains, hein. Quand il a fallu baptiser leurs enfants, mon grand-père paternel était catholique, ma grand-mère protestante. Donc, quand il a fallu baptiser les enfants, ils se sont posé la question, on les fait baptiser catholiques ou protestants. Et on était toujours dans le rationnel. Hein. Oh, ben, ils ont plus de risques de trouver une femme catholique qu'une femme protestante. Donc, on va les baptiser catholiques.
Statistiquement, ça se comprend.
Voilà. Mais j'ai toujours eu cette envie de connaître sa religion. Malheureusement, elle est décédée, j'avais 2 ans. Mon père est décédé, j'avais 11 ans. Donc, on n'a jamais pu avoir de discussion sur le protestantisme à ce niveau-là. Et puis, un jour, mes enfants faisaient du scoutisme. Et quand mon dernier est arrivé au Louveteau, c'est-à-dire qu'il avait 7 ans, 8 ans, je crois. Oui, quand il avait 8 ans, c'était sa deuxième année de Louveteau, le groupe de marmande des scouts et guides de France a fermé. Et donc là, bien embêté, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une amie qui est protestante, qui me dit, mais écoute, dans le village à côté, à 20 kilomètres, il y a un groupe protestant qui est très bien, de scouts très bien, vas-y. Donc, comme il voulait faire du scoutisme, je l'emmène. Et j'étais ravie parce que je me suis dit, mais ça y est, je vais pouvoir refaire le lien avec mon enfant, donc son arrière-grand-mère, voilà, avec le protestantisme. Et ça fait 12 ans que je suis dans ce groupe.
Parce que vous, vous l'êtes aussi?
Alors moi, voilà, je suis impliquée depuis quelques années, 5 ans je crois, dans le bureau. Je suis trésorière.
Ben, oui, la gestion, c'est bien le même domaine. Et donc vous avez retrouvé un peu le protestantisme donc vos ancêtres. Et est-ce que vous aviez trouvé le protestantisme dans vos études, dans ce que vous faites là? Non, on n'en parle pas.
Dans nos études, on en parle très. Non, on n'en parle pas parce que, en fait, Annick de Souzenel est vraiment. Vraiment, son objectif, c'est ça s'appelle. L'association s'appelle Ariga, en hébreu, ça veut dire tissage. Donc, elle veut tisser des liens entre les différentes traditions. Et elle part du principe que les traditions chrétiennes sont des traditions que majoritairement, et nous, on est à 100%, le groupe est chrétien, à 100%. En tout cas, à la naissance, de naissance. Quoi de naissance, je veux dire de petite enfance. Et elle part du principe. Bon, déjà, elle n'a pas rencontré d'enseignants qui ont accepté de venir à cet institut enseigner, comme Lita Basset, où c'est évident qu'elle aurait aimé rencontrer des personnes comme ça. Elle, étant orthodoxe, elle avait plus de facilité à contacter des orthodoxes.
Voilà. Oui, bien sûr. Et alors, en dehors de ça, qu'est-ce que vous connaissez du protestantisme finalement? Au niveau doctrine, donc vous avez parlé de Lita Basset. Qu'est-ce que vous connaissez en fait
Moi, ce que j'ai aimé, justement, avant, il y a quelques années, il y a eu une rencontre œcuménique dans la ville où j'habite, à Marmande, entre les trois religions. Et c'était donc la religion catholique, la religion protestante et la religion musulmane. Et c'était une après-midi, on allait une heure dans l'église. Le prêtre expliquait ce que c'était que le christianisme, le catholicisme. Après, on est allé au temple. Le pasteur nous a expliqué ce que c'était que le protestantisme. Et ensuite, on est allé à la mosquée. Et pareil. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, en tout cas, l'image qu'il nous a montrée du protestantisme que je ne connaissais pas, si ce n'est le temple de là où il y a les scouts de mes enfants, de mon fils. Mais bon, déjà, j'ai aimé le dénuement. Il n'y a pas de grosse croix, en plus, le Christ crucifié. Moi, bon, je suis plus sur le Christ orthodoxe, en créateur, ce Christ avec les bras ouverts, mais pas les clous.
Bien sûr.
Dans les mains. Bon, mais ça, c'est ma sensibilité peut-être. Donc, j'ai beaucoup aimé le côté quand même intellectuel du protestantisme. Quand même, il y a de la réflexion, il y a une remise en cause permanente. J'ai
qu'est-ce
eu
qui,
ce sentiment.
Oui, qu'est-ce qu'il a dit en fait? Vous vous rappelez un petit peu de ce qu'il a dit, ce qui vous a touché C'est
Alors,
un peu loin.
Oui, ça date. Mais ce qu'il a. Bon, et déjà, il a présenté l'histoire un petit peu de la différence entre le protestantisme et la séparation. Et ensuite, le partage différent. Je sais pas. Non, je ne peux plus me rappeler ce qu'il a dit.
C'est peut-être parce que c'était justement pas dogmatique qui fait qu'on ne se rappelle plus finalement.
Je pense que c'est ça, c'est le cœur qui. Ça m'a parlé au fond de moi, quoi, dans mon cœur, et pas dans ma. C'était pas une leçon. C'était vraiment quelque chose qui. Déjà, j'ai aimé. Alors, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Son parcours, qui est un parcours de beaucoup de pasteurs, c'est-à-dire marié, avec des enfants, une femme catholique, et à la retraite, donc ayant travaillé, connaissant ce que c'est qu'à essayer de ménager des enfants, la vie professionnelle, la vie, un petit peu tout, le temps qu'il a eu après, à partir de la retraite, où il a pu devenir pasteur. Moi, ça me. Oh, moi, je me dis, mais quand je vais être à la retraite, j'espère que je vais. Bon, je commence à enseigner un peu, à essayer de transmettre à Annick de Souzenel, mais j'espère que voilà, moi, c'est ce que j'ai envie.
Alors, non seulement les pasteurs sont mariés, mais ils peuvent même être femmes, puisque, notamment à Montpellier, nous avons cette année, tous les pasteurs en exercice sont des femmes. Bon, c'est pas voulu, mais enfin, ça se trouve comme ça. Et donc, et mariés, nous avons aussi une pasteur qui est mariée avec une autre femme. Donc, on peut dire qu'à ce niveau-là, effectivement, on est un petit peu loin de la religion catholique et de beaucoup de religions, malheureusement. Et ça, et alors donc, vous avez décrit de façon extrêmement sensible ce qui vous plaisait, c'est-à-dire, j'ai bien aimé justement qu'il n'y ait pas une liste de choses, mais plutôt un ressenti, une liberté, ça, vous l'avez très bien fait passer. Et alors, est-ce qu'il y a des choses, par contre, qui vous déplaisent dans le protestantisme? Parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer. Est-ce que vous en avez rencontré? C'est une question piège. Peut-être pas, hein, c'est pas. Je suis pas là pour tirer absolument des critiques sur le protestantisme.
Hein. J'ai bien compris. Non, ce qui est alors, mais c'est absurde de dire ça. Je ne sais pas si je peux le dire, mais bon, moi, ce qui me rebute, c'est qu'on boive la coupe tous ensemble. Ça, je ne peux pas.
Alors,
on partage, voilà, ça, ça n'est
pourquoi,
pas.
Pourquoi c'est quoi? C'est la question de. C'est théologique ou c'est une question d'hygiène?
C'est idiot, c'est une question d'hygiène, quoi.
Mais c'est pas idiot du tout. Non, non, mais ça, dans la plupart des temples, maintenant, on prend des petits verres, hein, depuis le Covid, notamment. Il y a les petits verres. Alors, il y en a qui prennent la coupe, mais moi, personnellement, j'ai une maladie auto-immune, donc je fais attention à ne pas attraper les microbes. Et la coupe, ben, je la prenais comme ça. Moi, je connais des tas de gens qui respirent. Et puis voilà, puis qui la passe, hein, parce qu'il y a des questions d'hygiène, effectivement. Il faut en parler éventuellement au pasteur et puis dire, bon, au pasteur ou au responsable de conseil, des conseils, hein, parce qu'effectivement.
L'angéologie n'est pas du tout présente dans le protestantisme. Et ça peut être quelque chose qui peut me gêner. Elle est très, très présente dans l'islam.
Eh bien, ça, on pourrait en parler dans une émission sur thème et anathème, qui est l'émission un petit peu plus théologique de. Mais ça peut être intéressant. On en reparlera parce que effectivement, c'est quelque chose qui est pour nous, enfin pour les protestants, disons souvent les anges. Bon, c'est les messagers de Dieu. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Mais effectivement, il y a toute une dimension mystique qui n'y est pas. Les protestants ne sont pas très, très mystiques, sauf quelques exceptions, effectivement. Et je remercie les auditeurs. Je les invite à mettre leur réaction sur un protestant peut en cacher un autre, @radiofnplus.org. Merci et à la semaine prochaine.
Merci.
Un protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.